Studio Tamani, voici nos informations en français.
Le président sénégalais Macky Sall était ce matin à Bamako pour une visite de travail. La bonne marche de la transition, les relations entre les deux pays et l'appui de l'Union africaine étaient au cœur des échanges selon le président de la transition. Fin de présence des forces françaises sur le territoire malien. Après 9 ans de présence au Mali, le dernier détachement des forces françaises de l'opération Barkhane a quitté la ville de Gao ce matin pour le Niger. L'annonce a été faite par l'état-major des armées françaises dans un communiqué. Studio Tamani dispose d'un réseau d'une quarantaine de correspondants à travers le pays. Dans le cadre de notre série de reportages sur les 9 ans de la boîte, nous parlons aujourd'hui du rôle et l'importance de ses correspondants. C'était là le sommaire de cette édition. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Je suis Hamsetou Touré à la présentation. Le président sénégalais Macky Sall a effectué ce lundi 15 août une visite de travail et d'amitié de quelques heures au Mali. C'est le premier déplacement du chef de l'État sénégalais depuis la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. Le président en exercice de l'Union africaine s'est dit porteur d'un message d'amitié et de bon voisinage. Un message de l'Afrique auprès du peuple malien. Cette visite du président en exercice de l'Union africaine intervient alors qu'une tension est née entre les autorités maliennes et ivoiriennes suite à l'arrestation de militaires ivoiriens par Bamako. Moussa Malé Sissoko.
Je porte auprès de mon jeune frère, le colonel Assimi Goïta, un message d'amitié et de solidarité du Sénégal et de l'Afrique. Ce sont les premiers mots du président sénégalais à sa descente d'avion. Arrivé à Bamako aux environs de 10 heures, Macky Sall a été accueilli à l'aéroport par le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Le président en exercice de l'Union africaine indique qu'il est venu échanger avec les autorités de transition malienne pour que le Mali reprenne sa place dans les concerts des nations. Car, dit-il, le Mali est un pays important, un pays pivot en Afrique de l'Ouest. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête au palais de Koulouba. Rien n'a filtré officiellement de leurs échanges. Mais certaines sources indiquent que les deux personnalités ont évoqué le dossier de 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali. Ceux-ci ont d'ailleurs été écrouillés par la justice malienne ce vendredi. Les présidents maliens et sénégalais ont, par ailleurs, animé une séance de travail qui s'est élargie aux autres membres des délégations. Cette visite de Macky Sall survient dans un contexte de gestion du système de rotation des contingents de la MINUSMA. L'Allemagne a annoncé la suspension de ses opérations militaires en soutien à cette mission onusienne.
Cette visite du président sénégalais au Mali est une bonne augure pour le pays. Il contribuera à renforcer les relations commerciales entre les deux pays et relancer le Mali sur le plan international. C'est en tout cas l'analyse de Dr Daouda Traoré, enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Il est joint au téléphone par Moussa Malé Sissoko.
Ce président qui est le président en exercice de l'UIA, que tout ce qui concerne les relations entre les pays africains, c'est lui qui est la première personnalité qui est interpellée. D'abord dans la relation bilatérale entre le Mali et le Sénégal, c'est que nous venons de sortir il y a moins et demi de cela d'un embargo qui a duré pendant 6 mois. Le Sénégal étant un État membre de la CEDEAO, elle entretient également des relations commerciales avec le Mali. On voit que même après l'embargo, le corridor Mali-Guinée et Mali-Mauritanie est sur le point d'être privilégié sur un retour vers le Sénégal. Donc, le président Macky Sall cherche à redorer son blason dans les relations bilatérales entre le Mali et le Sénégal.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Autre actualité du jour, les 49 soldats ivoiriens détenus depuis plus d'un mois à Bamako et accusés par le gouvernement d'être des mercenaires ont été placés sous mandat de dépôt à Bamako ce vendredi. Ils sont inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Ils ont été écroués à Bamako. Après cette inculpation, y a-t-il encore des chances d'un règlement diplomatique? Le juriste Ibrahim Ben Mamata pense que oui. Selon lui, un dénouement heureux par des voies pacifiques et diplomatiques est encore possible. Il est joint par Intala Ag Bilal.
De mon point de vue, il y a énormément de chances pour qu'il y ait un règlement pacifique de la situation, vu que déjà il y a des médiateurs qui ont été délégués pour la circonstance. Je pense que lorsque les pays concernés vont s'asseoir, ils vont trouver une solution par rapport à la question. Maintenant, les politiques peuvent avoir l'ascendance sur le judiciaire, surtout en de telles situations. Pour référence, je m'en vais prendre comme exemple le cas des terroristes au Mali qui ont été libérés après des jugements ou après des arrestations. C'est combien dire que les politiques peuvent prendre de l'ascendance sur le judiciaire à des niveaux.
Je l'annonçais dans les titres, le dernier détachement des forces françaises de l'opération Barkhane a quitté la ville de Gao ce matin pour le Niger. L'information a été annoncée par l'état-major des armées françaises dans un communiqué. Cette annonce intervient au lendemain d'une manifestation organisée dans la ville de Gao contre la présence des soldats français. Les manifestants ont accusé les militaires français d'être des parrains des terroristes au Mali. Les détails avec Intala Ag Bilal.
L'état-major des armées françaises explique ce départ par la décision prise par le président Emmanuel Macron le 17 février dernier de réarticuler ses forces hors du Mali après 9 ans de présence. Selon les responsables de Barkhane, la profonde transformation de la force ne se réduit pas à la fin de sa présence sur le territoire malien. Ils affirment que dans une logique de co-construction, les armées françaises continuent le combat contre le terrorisme au Sahel en coordination avec leurs partenaires. Ainsi, avec ce départ, c'est la fin de la présence des forces françaises sur le territoire malien. Barkhane avait déjà transféré à l'armée malienne ses emprises de Ménakaté, Sélit, Kidal, Tombouctou et Kossi. A noter que ce départ est intervenu au lendemain d'un ultimatum de 72 heures lancé par des forces vives de la ville de Gao. Passé ce délai, celle-ci menaçait d'interdire la circulation à toutes les forces étrangères dans la ville de Gao et sur les axes routiers. Les manifestants accusent Barkhane d'être le parrain des terroristes au Mali. Ils ont par ailleurs demandé aux autorités maliennes de porter plainte contre les autorités françaises pour complicité dans l'attaque meurtrière de Tessit.
Dans le cadre de notre série de reportages sur Studio Tamani, à l'occasion du 9e anniversaire du Média, nous nous intéressons aujourd'hui aux correspondants. Studio Tamani dispose d'un réseau d'une quarantaine de correspondants à travers tout le pays. Ils contribuent à la production des journaux et émissions. Ces collaborateurs locaux sont les yeux et les oreilles de Studio Tamani. Juliette Koulibaly revient sur le rôle et l'importance de ces correspondants.
Le rédacteur en chef adjoint de Studio Tamani, chargé du réseau des correspondants, affirme que les correspondants contribuent à la qualité de l'information de Studio Tamani. Sekou Gadigo, rédacteur en chef adjoint de Studio Tamani.
Toutes les informations, que ce soit dans nos éditions, les réseaux sociaux, en tout cas toutes les informations qui proviennent de l'intérieur du pays, c'est grâce à ces correspondants qu'on a ces informations. Donc leur apport est très très important dans ce que Tamani fait aujourd'hui. Et je peux même dire que c'est grâce à eux que Tamani parvient, je pèse mes mots, à faire la différence avec les autres radios du pays aujourd'hui.
Les correspondants étant le relais entre Studio Tamani, la population à l'intérieur du pays et les autorités, ils affirment pouvoir recouper les informations malgré les défis de sécurité dans certaines localités.
Mes tâches en tant que correspondant de Studio Tamani à Koutiala, c'est de chercher, fouiller, et puis traiter l'information pour l'ensemble des auditeurs de Studio Tamani.
À Ménac, nous travaillons dans l'insécurité, mais on fait en sorte que toutes les informations qu'on envoie soient des informations qui sont importantes. Il faut faire un papier, il faut faire une brève, il faut faire un enrobé.
À mon petit, je traite des sujets sociaux. Je participe souvent à des débats organisés par le studio.
Toutefois, les défis liés à la protection des correspondants dans les zones en proie à l'insécurité et le renforcement de leur capacité reste à relever selon le chargé du réseau des correspondants.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, l'actualité régionale. Plusieurs cars et véhicules des particuliers entre Koulikoro et Banamba ont fait l'objet de braquages par des bandits armés non identifiés hier. Des témoins rapportent que les bandits ont emporté plusieurs dizaines de millions. Les mêmes sources indiquent qu'une enquête ouverte par les forces de sécurité et de défense est en cours pour retrouver les malfrats. À noter que les forains sur la route Koulikoro-Banamba sont fréquemment attaqués par des hommes armés. Nous recevons à présent Mariam Maïga pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Mariam.
Bonsoir Hamsatou Touré.
Alors, qu'est-ce qu'on va aborder dans le Grand Dialogue de ce soir?
Dans le Grand Dialogue de ce soir, nous allons parler de cohésion sociale au Mali. Quels sont les défis? C'est une émission réalisée en partenariat avec le projet Tignani Maya. Et pour en parler, nous avons trois invités. Paul Togo, membre de la société civile de Badiangara, au téléphone. Fatal Modou Traoré également au téléphone, membre de la CAFO de Gao et président des mouvements de résistance. Avec moi au studio, il y aura Abdoul Kassim Fomba de Think Peace.
Merci Mariam. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de ce journal. Restez à l'écoute. Dans un instant, la question A. Dans un post sur les réseaux sociaux, Madame Samake Maria Koulibaly relate le drame qu'a vécu sa sœur qui a perdu son enfant hier dimanche dans une structure sanitaire publique. Une perte causée selon elle à cause de la négligence de certains agents de santé. Des situations de ce genre sont fréquemment dénoncées par les populations. Celles-ci reprochent à certains personnels de santé des mauvais comportements. L'ordre des médecins déplorent le mauvais accueil réservé dans certaines structures de santé. Ils demandent en revanche l'indulgence des usagers vis-à-vis des personnels de santé qui sont parfois débordés. Docteur Al-Kadri Diara, vice-président de l'Ordre des médecins, répond aux questions de Lale Tangara.
De façon générale, les gens se plaignent. Mais en tant que praticien, c'est que il est facile d'accuser l'autre, mais je crois qu'il y a des devoirs, des obligations qui sont aussi demandées à ces clients-là. Le premier contact, c'est l'accueil. L'accueil d'un patient, c'est très important. Mais le plus souvent, nos structures sont dotées des indications. Soit il y a un service d'accueil, les gens, au lieu de s'adresser au service d'accueil, non. Ils prennent d'autres voies, ne connaissant pas l'organisation de l'établissement. Donc, l'agent peut être surpris de voir X à ce poste-là, tel moment, parce qu'en te voyant à ce poste, ça sous-entend que vous avez une certaine compréhension, vous avez l'habitude de venir. Il y a un travail à faire à tous les niveaux, et au niveau des agents de santé de façon général, d'être patient envers ces patients-là, d'avoir la patience de les comprendre et d'utiliser les termes appropriés, mais aussi aux usagers de fournir des efforts de compréhension. Malheureusement, ce qui se passe chez nous, c'est que les établissements sont débordés. Imaginez qu'un seul médecin, tu te trouves avec 40-60 patients par jour, les accompagner, les conseiller, ce n'est pas possible.
Face à ces comportements jugés par la population mauvaise, qu'est-ce que l'Ordre des médecins dit?
Alors, c'est une organisation professionnelle qui régule la profession médicale et tranche les litiges entre médecins et usagers. La personne peut porter plainte à l'Ordre, c'est son droit, parce que l'Ordre fait des sanctions disciplinaires contre un médecin. Si il se trouve que le médecin a fait la faute, il y a 4 sanctions qui sont prévues dans les dispositions de l'Ordre. L'Ordre peut simplement avertir, l'ordre peut blâmer la personne, par exemple la personne ne peut pas être élue, l'ordre peut interdire la personne d'exercer de façon temporaire ou l'ordre peut radier quelqu'un définitivement de son tableau.
Alors comment combattre ces attitudes?
Ces attitudes passent par ce qu'on appelle le CCC, communication pour le changement de comportement. Chez nous, tout n'est pas rose. L'agent de santé, c'est vrai que tu peux avoir des problèmes, mais bon, c'est une profession que nous avons choisie et il y a des règles qui s'applique à nous. Le grand problème à notre niveau, c'est l'effectif. Il y a très peu d'agents de santé, surtout qualifiés, pour un nombre important de patients. La population souffre, mais l'agent de santé qui aussi a affaire est face à une difficulté qui ne dépend pas de lui. C'est aussi les autorités compétentes qui doivent aussi augmenter la capacité des hôpitaux, recruter plus d'agents.